l'histoire des églises orientales au XXe siècle, et notamment la théologie palestinienne et les incidences de cette théologie sur le rapprochement judéo-chrétien. C'est en Occident qu'ont commencé les premiers mouvements d'acceptation des Juifs, sous l'influence de chrétiens en général protestants ou évangéliques, disons, et aussi de gens qui étaient des rationalistes, des gens qui étaient pour une tolérance qui n'était plus finalement de nature religieuse. Et le dialogue judéo-chrétien est né justement de ce rapprochement. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a complètement, comment dirais-je, mis au premier plan le dialogue théologique et séparé le dialogue théologique de la question politique de l'État d'Israël. Il y avait une espèce de synchronisation de la dimension de religieuse et la dimension politique, mais qui était inversement proportionnelle. Plus on s'apitoyait sur la mort, sur le sort de la Shoah, des victimes de la Shoah, plus en même temps on préparait celle des vivants en Israël, des vivants israéliens, quoi. Bon, Jean-Paul II a fait des gestes en faveur d'Israël, notamment sa visite à Yad Vashem, mais enfin, elle était aussi toujours liée avec la Shoah. Bon, sa prière au Kotel, bon, il a fait des gestes, c'est indiscutable. Est-ce que chez lui, il y avait une certaine sympathie pro-sioniste? Laissons-lui cet a priori selon 1 Corinthiens 13. Mais force nous est de reconnaître que la politique anti-sioniste vaticane, elle, n'a pas varié d'un pouce, malgré les gestes de Jean-Paul II. Et les gestes ne font pas une politique. Est-ce parce que Jean-Paul II n'avait pas la possibilité d'influencer la politique du Vatican qui était entre les mains de la Curie? Là aussi, on peut l'imaginer, sans peut-être trop y croire quand même, je ne sais pas. Donc, même en 2000, au moment de la fameuse visite de Jean-Paul II en Israël, où il avait d'ailleurs fait aussi, quand même, quelques jours auparavant, il ne faut pas l'oublier, des déclarations pro-palestiniennes vibrantes, hein, quand il avait été chez Arafat, la politique pro-palestinienne du Vatican est restée constante, et on pourrait dire même qu'au début du XXIe siècle, elle s'est accentuée. Et actuellement, on peut dire que le monde chrétien a reconnu Arafat comme protecteur des lieux saints chrétiens. Ce n'est pas un titre officiel qui lui est donné, mais dans les faits, c'est ainsi. L'approbation sans nuance qu'il reçoit des autorités religieuses de tous bords montre que c'est bien ainsi qu'on le perçoit, qu'il est perçu justement dans la communauté internationale et dans le christianisme en général. On a déjà cité le fait qu'en Noël 2000, justement, à l'occasion de cette fête, avait été reconstitué à Strasbourg, capitale de l'Europe, un village palestinien, entre guillemets, avec Abi Bédouin à la chronique, parce que c'est évident que les bergers et les mages, les bergers en tout cas de l'époque de Jésus, n'étaient absolument pas vêtus de cette manière-là. L'orateur de cette soirée était l'archevêque Saba de Jérusalem, qui, en quelque sorte, a plaidé pour une Europe antichrétienne. C'était à peu près cela. Comme l'avons vu, l'islam, de toute façon, ne peut pas reconnaître que les autres soient ses égaux. C'est une humiliation pour l'islam. Par conséquent, la démocratie est une chose absolument inacceptable pour l'islam, même si pour des raisons tactiques, on réclame la démocratie dans les pays où les Arabes ne sont pas au pouvoir. Et donc, ici, on assiste maintenant à cette situation où l'Europe chrétienne est en train de faire sienne le négationnisme des chrétiens arabes, des chrétiens d'Orient, c'est-à-dire de mettre en question sa propre histoire et sa propre légitimité. Déclarer que Jésus était un Palestinien, habillé d'habits bédouins de cette époque-là, c'est une forme de négationnisme, c'est une forme d'autodestruction. Et pourquoi justement cet alignement sur les thèses des chrétiens arabes? Eh bien, il y a surtout une crainte de mécontenter les États musulmans et arabes, crainte de mettre en danger les chrétiens d'Orient. L'idée de plus en plus que disent-ils ces derniers, c'est que le monde entier était islamique avant, depuis toujours, parce que l'islam est la religion naturelle de tous les hommes. Et finalement, la conquête arabe ne fut rien d'autre qu'une libération et un retour au statu quo ante, dont la chrétienté les avait détournés. Et c'est l'enjeu actuellement. C'est l'enjeu. Est-ce que effectivement le christianisme a été une aberration? De plus en plus aujourd'hui en Occident, on le dit. Dans les cercles, évidemment, anti-religieux, mais également dans les cercles chrétiens de plus en plus. Et tout se joue sur cette affirmation-là. L'avenir de et la légitimité de l'Occident se jouent sur cette affirmation. Alors, au moment où débute le troisième millénaire, il y a un enjeu et un risque énorme qui vient du fait que on considère, les chrétiens d'Orient considèrent que leur arabité est basée sur justement cette appropriation de l'histoire d'Israël et son transfert justement sur l'islam. L'histoire d'Israël est confisquée, elle est détournée, et c'est ainsi par exemple que les chrétiens d'Orient déclarent: nous sommes les successeurs des prophètes, des apôtres et des saints. Amana Achraoui, l'adjointe d'Arafat, qui est une chrétienne grecque-orthodoxe, affirme qu'elle est descendante de Jésus, enfin de la famille de Jésus, qui était arabe à cette période-là. Et par exemple, la revue qui s'appelle La Branche d'Olivier, qui est éditée par le Patriarcat latin de Jérusalem, déclare qu'aujourd'hui, en Palestine, comme ils disent, et en Israël, les chrétiens doivent se cacher comme le faisaient les juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les chrétiens libanais, le patriarcat libanais déclare que les juifs cherchent à détruire la croix, c'est-à-dire l'Église. Une organisation terrible existe, et j'ai vu qu'elle a ici participé aux manifestations pro-palestiniennes à Vannes, c'est l'organisation Pax Christi. Pax Christi est une émanation justement des chrétiens d'Orient, notamment du patriarcat d'Antioche et de la communauté catholique de Jérusalem, qui a été déjà il y a plusieurs dizaines d'années la première à diffuser les protocoles de sages de Sion, qui sont, comme on le sait, un faux qui a été créé pour discréditer le sionisme et les juifs. Et cela avec l'accord du Vatican. Pax Christi est représenté au Vatican au plus haut niveau et somme Israël de procéder à son propre démantèlement pour effacer l'injustice que représente son existence, tout simplement. Alors, elle diffuse par un vaste réseau international la politique d'Arafat et on arrive à ce stade aujourd'hui où cette vague d'antisionisme religieux pourrait remettre en question le dialogue judéo-chrétien. Et est en train de le remettre en question. Ce qui est dramatique, c'est que tout comme les gouvernements, les dirigeants des églises savent parfaitement à quoi s'en tenir, savent parfaitement quelle est la véritable situation des chrétiens d'Orient, quelles sont les véritables motivations de la théologie palestinienne, quels sont les buts véritables poursuivis par Arafat et ceux qui sont autour de lui. Et pourtant, on fait comme si il y a complicité des dirigeants des grandes églises autour d'un mensonge. Et autour d'un mensonge extrêmement grave, comme je l'ai dit tout à l'heure, car tout en versant des larmes de crocodile sur les victimes de la Shoah, on est en train de préparer activement la Shoah des vivants qui sont en Israël. Alors, par exemple, dans le même temps, on refuse de prendre en compte ce qui se passe au Soudan, sur situation sur laquelle on est aussi parfaitement au fait dans les états-majors des églises, par exemple au COE à Genève. Et tout se passe exactement comme ça s'est passé dans les années où le communisme était au pouvoir dans les pays de l'Est, où le COE n'a jamais voulu prendre en compte les persécutions des chrétiens. Il y a ensuite une demande de plus en plus forte de déjudaïsation du christianisme qui se fait sentir, y compris dans les milieux évangéliques, qui jusqu'alors étaient à la tête justement de cette rejudaïsation d'évangile. Aujourd'hui, on arrive à un stade où la plupart des évangéliques sont même en retrait par rapport aux catholiques, qui eux aussi commencent à être en retrait par rapport à ce qu'ils ont été. En même temps, on veut aussi fermer les yeux sur ce qui se passe dans l'Extrême-Orient, par exemple à Timor et aux Moluques, on en a parlé un petit peu la dernière fois, où les chrétiens sont lentement détruits par des troupes musulmanes qui sont venues du monde entier. Ça, on veut l'ignorer. Il y a eu au moins 20 000 chrétiens tués à Timor. Des enfants ont été attachés derrière des voitures, des scooters, des motos et traînés dans les rues jusqu'à ce que mort s'en civile. C'est 50 000 tués aux Moluques, 500 000 réfugiés chrétiens dans ces îles qui ont lancé des appels au secours et qui sont restés sans réponse. Et on peut dire qu'au début du troisième millénaire, cette question est la question centrale sur laquelle les églises vont avoir à se pencher, parce que, encore une fois, de cette question va dépendre tout simplement leur survie. Et on peut dire qu'au troisième millénaire, si le Seigneur tarde, la survie du christianisme en Occident est loin d'être assurée. D'abord parce qu'il y a des forces puissantes qui cherchent à le détruire de l'extérieur, les courants laïques durs, parce qu'il y a l'islam, mais aussi parce qu'il y a la perte de substance, la haine de soi, la connivence avec les ennemis, et finalement l'autodestruction, la haine de soi, qui a été distillée par tous ces différents mouvements et qui risque d'emporter justement le christianisme lui-même. Alors, bon, on peut dire dans une perspective de foi, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son Église, a dit le Seigneur. Mais enfin, après tout, pourquoi l'Église continuerait-elle à exister en Occident ? Le christianisme ne va-t-il pas devenir un phénomène tiers-mondiste au XXIe siècle ? Un phénomène en Chine, en Afrique, en Russie peut-être, dans tous ces pays-là, et disparaître de l'Europe en tout cas. Peu probable qu'il disparaisse de l'Amérique, mais de l'Europe, en Europe en tout cas, la situation est extrêmement critique. Alors voilà comment on peut terminer justement cette étude sur les chrétiens d'Occident, les chrétiens d'Orient, je veux dire. Et justement, nous disions il y a un instant, qui sait si au XXIe siècle, le christianisme ne va pas se transporter d'Europe au tiers-monde, comme ce fut le cas, par exemple, au Ve siècle, Ve siècle, conquête islamique plus exactement un peu plus tard, quand les églises florissantes d'Afrique du Nord disparurent dans la tourmente islamique, et que le christianisme se réfugia justement dans notre Occident. Après tout, il n'y a pas de raison. Et là, justement, ça nous amène à aborder le dernier chapitre de cette étude de l'histoire de l'Église au XXe siècle, et par conséquent, de notre histoire de l'Église depuis les origines, c'est-à-dire l'expansion missionnaire au XXe siècle. Nous avons vu que le XIXe siècle avait été le siècle des missions, et que ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que le christianisme était devenu un phénomène mondial. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le christianisme a véritablement pris au sérieux ce qu'on appelle la Grande Commission, à la fin de l'évangile de Matthieu, allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Bon. On avait commencé déjà à la fin du 18e avec des gens comme Zinzendorf, puis William Carré, etc. Mais il est certain que la grande expansion missionnaire date du 19e. Et on peut ajouter aussi le 20e siècle. Le 20e siècle fut aussi un siècle missionnaire. Alors, avec un certain nombre de différences. On peut dire que finalement, le 19e siècle missionnaire se termine en 1914 avec la Première Guerre mondiale. 1910, Assemblée de New York, Assemblée missionnaire internationale de New York. 1911, un an après, Édimbourg, où naîtra l'œcuménisme, nous l'avons vu. Mais Édimbourg est d'abord une conférence missionnaire. Et les participants à cette rencontre n'imaginaient pas du tout que de cette assemblée allait naître le mouvement œcuménique. Pour eux, il s'agissait grande assemblée pour justement envisager l'évangélisation du monde pour le XXe siècle. On comptait 12 000 représentants, uniquement de toutes les églises issues du protestantisme. Il n'y avait aucun représentant orthodoxe ni aucun représentant catholique. Le président en était un méthodiste, John Raleigh Mott, et le programme ambitieux que s'étaient fixés les participants de la conférence d'Édimbourg était l'évangélisation du monde pour cette génération. C'était le slogan qui était sur toutes les affiches. Déjà à cette époque, il y avait 45 000 missionnaires qui étaient à l'œuvre sur les différents champs missionnaires dans le monde entier. C'était déjà énorme. En fait, les rêves d'Édimbourg ne se concrétiseront pas. Il faudra plus d'une génération pour atteindre ce but. Mais le but était clairement fixé. Ce qui est caractéristique de la conférence d'Édimbourg, c'était son caractère optimiste. Bon, nous avons vu qu'ils avaient péché par optimisme quant au but, mais également l'idée que le christianisme était engagé dans un mouvement d'expansion irrésistible, que le Seigneur travaillait avec eux, etc., et que le but était à la portée de la main. Alors, bien sûr, il y avait quelques problèmes qu'il fallait envisager, d'où justement celui de l'unité. Ça a été un des gros points que l'on a eu à traiter à Édimbourg. Mais l'idée que le christianisme accomplissait non seulement une dimension spirituelle, mais également une fonction civilisatrice, parce qu'il y avait finalement cette idée colonialiste, pourrait-on dire aujourd'hui, je ne mets pas de connotation obligatoirement négative à ce terme, hein. Mais enfin, cette idée d'une supériorité de la culture occidentale sur les cultures locales, et qu'en apportant le christianisme, on apportait aussi, bien sûr, les bienfaits de la civilisation occidentale à ce monde sauvage, en quelque sorte, quoi. Bon. Cet optimisme a sombré dans la tourmente de la Première Guerre mondiale. Et déjà, la Première Guerre mondiale avait été précédée par un certain nombre de secousses qui avaient fait pâlir quelque peu, dans le tiers-monde, le prestige de l'homme blanc. La première de ces secousses fut la guerre russo-japonaise de 1905, au cours de laquelle la puissance occidentale, qui était celle de la Russie, subit une défaite monumentale en face d'un peuple asiatique, le peuple japonais. Et beaucoup ont vu dans cette défaite de l'Occident, en quelque sorte, la riposte et la revanche de l'Asie. Et à partir de ce moment-là, de plus en plus, la civilisation occidentale va être contestée dans le tiers-monde. Et avec elle, évidemment, le christianisme auquel imprudemment, les missionnaires l'ont identifié. Et par conséquent, contrairement à ce qu'avaient attendu les participants d'Édimbourg, il va y avoir, dans le tiers-monde, un certain rejet, et même un rejet certain du christianisme. en tout cas d'une certaine forme de christianisme. Deuxième secousse, qui va aussi ternir le prestige de l'homme blanc, c'est dans les premières années du siècle également, la guerre des Boers en Afrique du Sud. Afrique du Sud, qui était une colonie anglaise, peuplée essentiellement de descendants des Huguenots français, puis hollandais, qui étaient venus peupler une région qui, il faut bien le dire, à cette époque-là, était à peu près vide d'habitants. Et les Blancs n'étaient pas du tout, comme on l'a prétendu dans une certaine propagande politique, des colons qui venaient déplacer les habitants noirs. Ce qui s'est passé, c'est que cette région était pratiquement vide, déserte d'habitants. Les colons sont venus justement s'installer à l'extrême sud, puis là sont remontés vers le nord, d'où des tribus africaines descendaient vers le sud. Si bien qu'il y a eu contact à mi-chemin, si j'ose dire, entre les Blancs et les Noirs. Et finalement, c'est dans cette région qui était un no man's land, en quelque sorte, que les problèmes sont nés. Bon. Mais là, on n'en était pas encore à cette époque-là, au début du siècle, où finalement le problème noir dans l'extrême sud du pays ne se posait pas. Par contre, il y avait un autre problème, c'était justement celui des Boers. Les Boers étaient justement les descendants de ces Hollandais qui étaient venus s'installer là à la suite des persécutions religieuses du XVIe siècle, et qui étaient essentiellement des calvinistes, au demeurant, qui parlaient une langue, l'afrikander, qui était une espèce de dialecte du hollandais, et qui finalement ne se sentaient pas tellement anglais, et qui ont voulu prendre leur indépendance par rapport à l'Angleterre. L'Angleterre a réprimé cette révolte des Boers dans le sang. Et à la grande stupéfaction, justement, des Noirs, qui assistaient en spectateurs à cette guerre fratricide, ils ont vu que les Blancs, qui prêchaient l'évangile de l'amour, de la réconciliation, de la paix, savaient parfaitement s'étriper joyeusement en mettant leur évangile de côté. Ensuite, il y a eu la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a été considérée aussi, évidemment, comme une guerre civile européenne. Pour les populations du tiers-monde, c'est comme ça qu'elle a été perçue, et ce d'autant que ces populations du tiers-monde ont pris part à la guerre mondiale, comme troupes auxiliaires. Et c'est ainsi, par exemple, que les tirailleurs sénégalais ont formé des régiments qui sont montés à l'assaut de Verdun, du Chemin des Dames, de la Somme, etc. Les tirailleurs marocains, etc. Du côté anglais, c'était pareil. On avait les troupes auxiliaires noires. Les Allemands aussi ont essayé. Bon, ils avaient moins de colonies, mais enfin, ils ont essayé aussi d'amener des troupes, etc. Et avec stupeur, justement, ces gens-là ont vu à quels excès, à quelles horreurs les Blancs étaient capables de se livrer, alors que pour beaucoup, l'Occident, l'Europe, c'était le pays de l'Évangile, c'était le modèle qu'il fallait absolument imiter. Et la Première Guerre mondiale a été un coup terrible pour le prestige de l'homme blanc. La Première Guerre mondiale, non seulement à cause de la tuerie qu'elle a occasionnée, mais également à cause de la révolution bolchevique. Vous savez que c'est à la fin de la Première Guerre mondiale que Lénine a pris le pouvoir en Russie, et est apparue, donc, avec le marxisme, une puissante force antichrétienne qui alors allait faire des ravages, justement, par la suite, et qui a été une mise en question du christianisme. D'ailleurs, qui s'est voulu lui-même en dehors de cette guerre mondiale et qui a mis en question le christianisme comme opium du peuple, et qui s'est fait le champion de la libération des peuples colonisés. Et non seulement le marxisme qui s'est infiltré, notamment dans les années 60, dans les pays du tiers-monde, a mis en question le christianisme, mais également a donné aussi mauvaise conscience aux chrétiens. Mauvaise conscience aux chrétiens sur deux plans. D'abord, quant à leur compromission, en tout cas pour ce qui est des grandes églises, avec les pouvoirs oppressifs, et deuxièmement aussi qui a mis en évidence leur collusion avec le colonialisme. Et le christianisme s'est mis à avoir mauvaise conscience face au marxisme, en se demandant si les marxistes n'auraient pas raison. Et nombre de chrétiens ont abandonné le christianisme pour se tourner vers le marxisme. Et même ceux qui sont restés fidèles au christianisme se sont demandé si, après tout, les marxistes n'avaient pas en partie raison. Et l'anticolonialisme dans le tiers-monde, travaillé de l'intérieur par le marxisme, s'est concrétisé comme une réaction anti-Occident, anticolonialiste et anti-occidentale. C'est dans les années 60 que la plupart des pays du tiers-monde ont accédé à l'indépendance, et souvent, justement, l'accession à l'indépendance s'est accompagnée d'une réaction antichrétienne qui a pu prendre même parfois des formes violentes, des formes de persécution. Et en même temps, cette réaction antichrétienne a ouvert un boulevard à l'islam, qui a su se présenter comme la religion des persécutés, la religion qui elle-même avait souffert aussi de l'Occident, du colonialisme occidental, et qui se présentait comme une force libératrice qui succédait au marxisme moribond qui n'avait pas su justement non plus tenir ses promesses. À cette mauvaise conscience anticolonialiste et anti-impérialiste s'est ajoutée pour les chrétiens des incertitudes théologiques. Les incertitudes théologiques qui étaient nées et qui avaient grandi au XIXe siècle ont fait leur chemin, je dirais, chez Monsieur Tout-le-Monde, essentiellement au XXe siècle. Les théories modernistes, libérales, qui, au XIXe siècle, touchaient essentiellement les états-majors des Églises, à partir du XXe siècle, ont touché le peuple des Églises. Et alors, il y a eu des interrogations, des incertitudes, des doutes qui sont nés. Et est apparu donc au XXe siècle ce phénomène qui a marqué le siècle finissant, celui de la sécularisation. Et on s'est demandé, est-ce que finalement notre civilisation, après tout, est la meilleure? Ça, c'était une bonne question à se poser, c'est vrai, c'est une question légitime. Mais on s'est dit aussi, est-ce que finalement notre religion, qui fait partie de ce « package deal », comme on dirait en anglais, est aussi la meilleure? Et on s'est posé la question, est-ce que nous n'aurions pas éventuellement à apprendre des autres religions? Bon, c'était un petit peu aussi une démarche qui sous-tendait la démarche œcuménique. Finalement, dans le dialogue œcuménique, je peux peut-être aussi me demander s'il n'y a pas des richesses que je dois trouver chez les autres, même si je n'accepte pas tout ce qu'ils disent. Bon. Or, cette démarche qui était légitime dans le cadre du christianisme, dans le débat interne au christianisme, c'est-à-dire dans le débat entre protestants, catholiques et orthodoxes, a ensuite été transposée dans un éventuel dialogue avec les autres religions, les religions non chrétiennes. Vous savez, par exemple, que Vatican II a institué aussi un secrétariat pour le dialogue avec les religions non chrétiennes, qui a culminé avec Assise, par exemple, les rencontres d'Assise, etc. Et avec l'idée, justement, qu'on a trouvé manifestée dès la deuxième conférence mondiale sur l'évangélisation, qui a eu lieu en 1928 à Jérusalem. Jérusalem, c'était tout un symbole, bien sûr. C'était juste après la Première Guerre mondiale. Bon, enfin, les années qui avaient suivi la Première Guerre mondiale, c'était la continuité d'Édimbourg. Et là, justement, le ton était tout à fait différent de celui qu'on avait quelques années plus tôt à Édimbourg en 1911. Autant Édimbourg était marqué par l'optimisme, par on était très sûr de soi, très sûr de sa foi, de son bon droit, finalement, à Édimbourg. Eh bien, on était beaucoup plus hésitant à Jérusalem, en 1928. Le tournant sera pris en 1932, la troisième conférence pour l'évangélisation mondiale, donc la troisième conférence missionnaire, qui portait ce titre évocateur et symptomatique, « Repenser les missions ». Donc c'était une remise en question de la mission elle-même. Et on a conclu que la tâche du missionnaire n'était pas d'apporter, d'asséner en quelque sorte, sa vérité, mais de discerner parmi les religions, au milieu desquelles il se trouvait, ce qu'il y avait de meilleur, et d'aider les indigènes à retrouver le meilleur de leur propre tradition religieuse. Donc, on s'orientait vers, justement, cette idée d'un dialogue fructueux avec les religions non chrétiennes, telle aurait été, donc, la tâche du missionnaire. Heureusement, à cette époque-là, c'était aussi une époque où les églises locales atteignaient en quelque sorte une certaine maturité et étaient en passe de prendre en main leur propre destin et souhaitaient petit à petit s'affranchir de la tutelle des missionnaires. Et c'était aussi ce qu'on appelait la contextualisation. On avait fait une analyse qui était juste, à savoir qu'on ne pouvait pas assimiler le christianisme avec la culture occidentale. Et que certains échecs qui s'étaient produits dans l'évangélisation des pays du tiers-monde venaient justement de ce qu'on avait voulu balayer, on n'avait pas été suffisamment à l'écoute des traditions locales. Pourquoi, par exemple, imposer aux Mau-Mau du Kenya la, Bible en latin, la messe en latin, par exemple. C'est complètement aberrant. Bon, ça, c'était effectivement une analyse qui était juste. Pourquoi exiger des momos qu'ils chantent en grégorien ? Alors que, bon, ils avaient leur tradition avec leur tam-tam, pourquoi installer de l'orgue, par exemple ? Après tout, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas chanter des mélodies sur leur propre tradition musicale, sur leur propre rythme, avec leurs propres instruments, etc. Bon, jusque-là, rien à dire. C'est un fait. C'est un fait. Pourquoi ne pas respecter leur propre manière de se vêtir et leur imposer, par exemple, les habits sacerdotaux et les habits liturgiques des Occidentaux ? Quoique souvent, ces indigènes se sont rendus compte qu'ils étaient très fiers d'arborer ces habits. Ça leur donnait l'impression d'être des égaux des Blancs. Bon, jusqu'à aujourd'hui, finalement, cette contextualisation a eu son mauvais côté parce que ça a été perçu, alors que c'était en quelque sorte souvent un effort pour se mettre au niveau des indigènes, et ça a été perçu comme une discrimination. Les Blancs ne considèrent pas comme nos égaux, puisqu'ils refusent qu'on mette les soutanes comme eux, ou qu'on mette les robes liturgiques comme eux. Bon, c'était plus au niveau des protestants, des églises épiscopaliennes ou des églises luthériennes, des choses comme ça, que des catholiques, qui eux, justement, avaient justement les habits liturgiques pour tous. Bon. Mais là où ça a déraillé, c'est quand on a commencé à dire qu'après tout, on pouvait intégrer dans le christianisme des traditions d'origine païenne, par exemple des invocations aux esprits, le culte des ancêtres, le culte des morts, la polygamie, certains rites de sorcellerie ou des choses comme ça, des guérisseurs. Bon. Là, petit à petit, il y a eu une dérive qui s'est faite. Et l'idée, c'était que le but de la mission n'était plus la conversion, mais la coopération. Et alors, on s'est lancé dans du social, on s'est lancé dans de l'humanitaire, et on a laissé de côté l'évangélisation proprement dite. Finalement, ce qui était à l'origine de ces démarches, c'était la honte du colonialisme qui était assimilée avec, justement, la prédication de l'Évangile. Et on s'est dit qu'après tout, le christianisme pourrait bien être qu'un avatar occidental. Un phénomène occidental, ce qui est d'ailleurs une analyse à très courte vue, parce qu'à son départ, quand même, le christianisme est un phénomène oriental. Il est venu en Occident parce qu'il a été porté par des missionnaires orientaux qui sont nuls prêcheurs en Occident. Et qui sait si un jour il n'y aura pas une réévangélisation de nos pays par des missionnaires qui nous viendront d'Afrique, ou d'Asie, ou de Chine. Et sous les coups justement de la sécularisation, il y a une valeur qui a supplanté toutes les autres, c'est celle de la tolérance. La tolérance est devenue la plus grande de toutes les vertus, tolérer, ça voulait dire aussi ne pas, en quelque sorte, choquer l'indigène en remettant en question ses traditions religieuses ancestrales et par conséquent, en essayant de les valoriser. Cette démarche, bien sûr, on l'aura compris, était surtout la démarche des églises historiques. L'Église catholique, au début du siècle, a connu sa grande crise moderniste, on en a déjà parlé, et en quelque sorte, le déclin de son zèle missionnaire a été la conséquence de cette grande crise moderniste. Mais on a vu aussi que cette crise moderniste avait été rapidement jugulée et rapidement contrôlée, et l'élan missionnaire a repris, l'élan missionnaire catholique a repris. À la fin du siècle, ici, il y avait donc 60 000 missionnaires catholiques sur les champs missionnaires. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que, ce qui était nouveau d'ailleurs pour le catholicisme, c'est que l'essentiel de ces missionnaires venait de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, qui était devenue un bastion catholique qu'il n'était pas jusqu'alors. L'implantation catholique en Amérique du Nord a été faite par l'Irlande. Et le catholicisme américain, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, est étroitement en relation avec l'Irlande. Puis, donc il y a eu, au début du siècle et à la fin du XIXe siècle, un essor missionnaire en direction des États-Unis, par des missionnaires venus d'Irlande. Et au Vatican, les États-Unis étaient considérés comme une terre de mission. C'est en 1908 que l'on a rayé justement les États-Unis de la liste des pays de mission vers lesquels l'effort catholique devait se porter. Et dès 1918, les États-Unis ont commencé à fournir au catholicisme leurs premiers missionnaires qui ont été envoyés en Chine. En 1958, il y avait 43 000 missionnaires catholiques, dont 27 000 Américains, c'est-à-dire la moitié, plus de la moitié. En 1961, l'épiscopat américain crée un département des missions, qui est aujourd'hui un des plus actifs, pour ce qui est justement de la mission catholique, ce d'autant justement que les Américains ont des moyens financiers importants qui font qu'ils sont à la tête justement de la mission catholique. On assiste exactement au même phénomène du côté protestant. L'essentiel, les gros bataillons des missionnaires protestants ont toujours été les anglo-saxons. Mais au XIXe siècle, c'était l'Angleterre qui fournissait le plus gros contingent. À partir du XIXe siècle, la tendance va s'inverser et ce sont les États-Unis qui vont fournir l'essentiel des missionnaires protestants qui sont à l'œuvre dans le monde. En 1901, se crée la CIM, Mission intérieure du Soudan, qui aujourd'hui emploie 1300 missionnaires et qui est à ce jour la plus grande mission du monde. Et la création du mouvement de Pentecôte va entraîner aussi un grand élan missionnaire. Les pentecôtistes sont conscients qu'il faut porter dans ce siècle l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et les missions pentecôtistes issues des États-Unis vont surtout s'employer à évangéliser l'Amérique du Sud, l'Amérique latine. Et le XXe siècle va voir, on aura l'occasion d'en reparler, un formidable essor du protestantisme, notamment évangélique, en Amérique du Sud. Notamment au Brésil et au Chili, qui sont les deux pays les plus touchés, et à la fin du siècle, l'Amérique centrale, des pays comme le Guatemala, surtout Guatemala, sont pratiquement à 50% devenus évangéliques à la suite de l'effort de ce siècle. Il y a aussi des pays africains où la pénétration de l'évangile charismatique, en quelque sorte, va être très forte. Ce sera le cas des États de l'Est africain, Kenya, Ouganda et ce qu'on appelait à cette époque-là le Tanganyika, c'est-à-dire aujourd'hui le Zimbabwe, si ma mémoire, si je ne m'abuse. Il y a aussi une grande part qui est proportionnellement fournie par le Canada. Canada, qui est un petit pays par la population, qui est le deuxième pays du monde par sa superficie, mais quand sa population est quand même beaucoup plus réduite. On a aussi évidemment des missionnaires qui viennent de l'Europe protestante, les Anglais, les Allemands. Mais en 1933, l'arrivée d'Hitler au pouvoir met fin aux missions allemandes. Missions allemandes qui s'exerçaient essentiellement au Cameroun, dans les pays de cette région-là, qui étaient devenus justement des colonies allemandes jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et l'influence allemande s'y faisait sentir même après la disparition de l'administration allemande. Et dans la mesure où les églises allemandes elles-mêmes sont en difficulté après l'avènement d'Hitler, évidemment, elles n'ont plus la force ni les moyens de continuer leur œuvre missionnaire. Bon, après la Deuxième Guerre mondiale et au moment où l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de Bonn, va devenir un pays riche, il va y avoir à nouveau un élan missionnaire qui va d'ailleurs avoir pour objectif essentiel ces pays qui étaient autrefois des colonies allemandes en Afrique. Malgré cela, malgré donc ces bémols que nous avons mis tout de suite, c'est-à-dire la sécularisation, la fin du colonialisme, le marxisme, les guerres mondiales, le XXe siècle restera aussi un siècle des missions. Il y a eu un énorme progrès des missions dans ce siècle. Et à la fin du siècle, on ne note plus que trois pays qui sont hermétiquement fermés à l'Évangile, l'Afghanistan, espérons que ça pourra changer maintenant avec les événements qui s'y passent, le Tibet et le Népal, qui sont des pays essentiellement bouddhistes. Il y a eu, entre 1921 et 1931 en particulier, une formidable augmentation de la population chrétienne dans le monde. Rien qu'en Inde, par exemple, la population chrétienne, pendant cette période, a augmenté de 10%. En 1914, en Amérique du Sud, on notait 1 million d'évangéliques pour toute l'Amérique du Sud. À la fin du siècle, il y en avait 10 millions. Même chose en Extrême-Orient. Au Japon, par exemple, où le sentiment religieux a toujours été très fort pour les religions traditionnelles, l'évangélisation s'est heurtée à cette tradition d'une part, et d'autre part au caractère extrêmement individualiste du japonais. Et puis ensuite, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu, entre les deux guerres déjà, une augmentation du nationalisme japonais qui est devenu une véritable religion, en fin de compte, qui a culminé, comme on le sait, avec la Deuxième Guerre mondiale. Et il y avait donc de très grandes difficultés à évangéliser le Japon. Les missionnaires étaient même tout simplement persécutés. En 1940, au moment de l'arrivée au pouvoir des ultranationalistes, l'évangélisation est devenue quasiment impossible, les missionnaires ont été chassés, des églises ont été dissoutes, et on peut dire que c'était un échec. Puis, il y a eu l'effondrement du Japon, après Hiroshima, 1945, et le choc moral qu'a représenté la défaite pour le peuple japonais a été aussi un traumatisme spirituel sévère. Et il y a eu alors quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que le Japon, vaincu, a considéré qu'il avait été vaincu par une civilisation qui lui était supérieure. Et il a donc accepté The American Way of Life, comme on le sait. Et parmi l'American Way of Life, il y avait le christianisme. C'est le colonialisme à l'envers, mais un colonialisme dont le peuple japonais en quelque sorte était demandeur. Un colonialisme non politique, encore que jusqu'à un certain point il l'était, mais un colonialisme culturel, finalement. Et il y a eu donc une possibilité de réévangéliser le Japon au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Quelques années après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 4000 missionnaires au Japon, les protestants en particulier. Mais leur tâche a été gênée par deux choses. Premièrement, par le fait qu'ils ont agi en ordre dispersé, bien souvent, comme c'est le cas, hélas, souvent des protestants. Et puis deuxièmement, dans la deuxième partie du siècle, l'American Way of Life a provoqué un effondrement moral du Japon. L'immoralité s'est introduite partout et, bien entendu, a freiné considérablement l'expansion du christianisme. Et finalement, le Japon reste aujourd'hui un pays qui reste malgré tout fermé à l'évangile. Non pas sur le plan qu'il mette des restrictions, prêcher l'évangile à peu près librement dans ce pays, mais le japonais moyen n'est pas ouvert à l'évangile. Et finalement, on compte en tout et pour tout au Japon environ 250 000 chrétiens. Pour un pays de cette importance-là, c'est infime. C'est pratiquement rien. En Chine, les choses ont été un petit peu différentes. La Chine avait été marquée par le grand réveil du Tsun Taylor à la fin du 19e siècle, comme on l'a vu. Puis il y avait eu donc des troubles politiques qui avaient suivi la guerre de l'opium. Vous savez comment l'hypocrisie des puissances occidentales avait été telle que finalement une révolte s'en était suivie de la part du peuple chinois. C'était révolté contre les Blancs, la fameuse révolte des bourgs, comme on le sait. Et à la suite de cette révolte, la Chine était tombée dans un état de déliquescence politique. Le pays se morcelait en entités plus ou moins indépendantes sous la direction de ce qu'on appelait des seigneurs de la guerre, qui guerroyaient les uns contre les autres, comme leur nom l'indique, et qui faisaient que la Chine vivait dans un état d'anarchie, de guerre endémique permanente, donc une déliquescence, une décomposition du pays. Cette période, évidemment, n'était pas particulièrement propice à l'évangélisation, comme on l'imagine, dans la mesure où le blanc était considéré comme, justement, un colonialiste en puissance, ce que, évidemment, Hudson Taylor avait voulu éviter à tout prix. D'un Chinois qui s'appelle Chiang Kai-shek et qui crée le Kuomintang, un parti politique qui se veut le parti de la rénovation chinoise. Son but, c'est de réunifier la Chine, de normaliser les rapports avec les Blancs. Et Chiang Kai-shek, notamment, est chrétien. Il se fait baptiser en 1930 et par conséquent, il ouvre la Chine à la mission chrétienne. Et cette période du Kuomintang, cette période qui va donc de 1930 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, est l'âge d'or justement de l'évangélisation de la Chine, la deuxième vague d'évangélisation de la Chine après l'époque de Hudson Taylor. Là donc, il y a pendant cette période un accroissement très important du nombre des chrétiens chinois, un accroissement de 10% à peu près du nombre des Chinois qu'il y avait et des chrétiens qu'il y avait auparavant. Éclate alors la Deuxième Guerre mondiale. La Chine a été un des pays qui a été aux avant-postes de cette guerre mondiale, puisque dès 1937, elle a été envahie, en tout cas pour sa partie orientale, par les Japonais, qui ont créé le Mandchoukouo, en particulier dans la Mandchourie. Et de nombreux chrétiens ont péri dans les combats, d'une part, et puis les Japonais se sont opposés très fort aux missions chrétiennes, dans lesquelles ils voyaient justement une œuvre de colonisation des Blancs. Et alors ils ont détruit les missions systématiquement. Partout où les Japonais s'étaient installés, les missions chrétiennes ont été détruites. Après la Deuxième Guerre mondiale, Chiang Kai-shek, qui s'était réfugié donc à l'intérieur de la Chine, a été reconnu comme chef de toute la Chine. Il a réunifié la Chine, allié des Américains, etc., etc. Mais dès 1945, Chiang Kai-shek a eu affaire à une révolte communiste, la fameuse révolte de Mao Tse-tung et de sa longue marche qui a abouti à l'éviction donc du Kuomintang en 1949, où Mao Tse-tung et ses communistes ont pris le contrôle de l'ensemble du pays. Immédiatement, évidemment, ça a été la persécution des chrétiens, la fin des missions. Et en 1953, les derniers missionnaires occidentaux ont quitté la Chine. En fait, on considérait le christianisme C'est tout de considérer, d'abord en tant que communiste, marxiste, comme l'opium du peuple, comme le faisait justement Staline, mais également aussi comme un instrument de l'Occident colonialiste. Et professer le christianisme sous la Chine maoïste, surtout les premières années, était considéré comme un crime contre la Chine nouvelle, en quelque sorte. La mission était une agression de l'Occident contre la Chine, contre l'Orient. Et on a vu donc des choses terribles où même des chrétiens chinois ont trahi et livré les missionnaires rouges, quoi. Hein. Et alors, les missionnaires se sont réfugiés à Formose, qui est aujourd'hui Taïwan, qu'on appelait Formose à cette époque-là, qui était donc une île au large de la Chine, une grande île, où s'était réfugié Chiang Kai-shek, et qui incarnait ce qu'on appelait la Chine nationaliste. Chiang Kai-shek se considérait toujours comme le véritable chef de la Chine tout entière, et depuis Formose, il envisageait la reconquête de la Chine contre les Rouges. Et bon, aujourd'hui, Chiang Kai-shek est mort et on a abandonné cette prétention, mais enfin, c'est maintenant la Chine rouge qui entend récupérer Taïwan, mais c'est pas bon. Et par conséquent, Formose est devenue une base missionnaire très importante. D'abord parce que là, on pouvait évangéliser les Chinois, parce que l'on a créé sur le territoire de l'île, qui était à quelques encablures de la Chine continentale, des stations de radio qui diffusaient donc en chinois l'évangile. Et puis aussi parce que de là, on a pu envoyer clandestinement des missionnaires, des Bibles, vous savez, en particulier Frère André a utilisé cette île comme base de départ pour justement sa contrebande, comme il disait, n'est-ce pas, de Bibles en particulier. Pendant cette période-là, la Chine a été le théâtre de réveil. Le réveil, on le sait, est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et en 1908, a eu lieu à Shanghai un réveil qui a duré 10 jours. Ce réveil était le premier après le réveil de 1901. Et ce réveil de 1908 était en fait inspiré et influencé par le réveil gallois, hein, qui était en cours à cette époque-là. Et ce réveil a eu pour instrument un missionnaire américain qui s'appelait Gofort, et qui peinait en Chine depuis déjà un certain nombre d'années, sans voir de résultats. Il était absolument découragé de l'état des églises chinoises, où les quelques chrétiens qui professaient l'évangile étaient des hypocrites. La plupart étaient menteurs, voleurs, adultères, tout ce qu'on veut, quoi. Il est inutile de dire que dans de pareilles conditions, l'impact de l'évangélisation était quasiment nul. Et Godefroy et les missionnaires qui étaient autour de lui se désespéraient, étaient prêts même à renoncer et rembarquer pour leur pays. Quand soudain, un ami lui a envoyé des États-Unis un exemplaire des réveils religieux de Finney. Et Godefroy a lu ce réveil de Finney. Ça a été l'occasion d'un réveil personnel pour lui. Et il a commencé à prêcher, à partir justement des œuvres de Finney, le message de Finney. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Les chrétiens chinois qui vivaient dans cette tiédeur spirituelle dont nous avons parlé se sont véritablement réveillés. Se sont mis à mettre en ordre leur vie, ont remboursé les sommes qu'ils avaient mal acquises, ont renvoyé leurs concubines, ont mis de l'ordre dans leur vie matrimoniale, ont confessé les péchés, certains des crimes qu'ils avaient commis, etc. etc. Et le réveil a commencé. Le réveil a commencé en Chine. Ce réveil, on en a entendu parler, les autres missionnaires ont entendu parler, et c'est ainsi que Godefroy a été invité à se rendre dans la grande ville de Tsunxian, je ne sais pas comment ça se dit exactement, Tsunxian vraisemblablement. Et là, donc, il a entrepris non seulement de prêcher aux églises, mais d'évangéliser. Évangéliser sur la place publique, à la foire en particulier. Et là, les pasteurs et missionnaires locaux ont commencé eux-mêmes par se réveiller. Il y avait entre eux des inimitiés profondes. notamment pour Godefroy lui-même. Il y avait des collègues avec lesquels il était en bisbille. Il a commencé donc à se rendre chez ce collègue pour régler ce différend qu'ils avaient entre eux. Et alors, le réveil s'est répandu comme une traînée de poudre dans toutes les églises de Chine. De là, justement, les Coréens en ont entendu parler. Des Coréens sont venus voir ce qui se passait en Chine et le réveil a également gagné la Corée. Le secrétaire général de la mission en Chine, qui se nommait Mackay, s'est rendu en Corée pour y prêcher l'évangile. Puis, de là, il est repassé en Mandchourie, où il s'est rendu compte aussi que le réveil avait gagné, et partout, partout, le réveil progressait en Chine. Ceux qui étaient en contact avec ce réveil étaient profondément impressionnés par ce qu'ils voyaient. Le réveil à Shanghai a commencé en 1908, puis de là, Godefroy s'est rendu à Mukden, en Mandchourie, où le réveil aussi s'est répandu. Il avait d'abord été très mal reçu par les missionnaires locaux. Puis, quand ces missionnaires se sont rendus compte que de nombreux rétrogrades revenaient, alors ils ont changé d'attitude. Et la Mandchourie, qui était un endroit extrêmement fermé, s'est soudain ouvert à l'Évangile. Des brigands se sont convertis, brigands très nombreux dans ces régions. Le réveil s'est aussi répandu dans de nombreux villages chez des non-chrétiens. Ce réveil a duré jusqu'en 1953, donc jusqu'à la fin de l'évangélisation de la Chine. Et aussi, elle a fourni des martyrs. 53 missionnaires qui ont laissé leur vie, notamment dans ces années où le communisme s'est installé justement et a mis fin à ces choses-là. Il y avait aussi des problèmes qui venaient de ce qu'on n'était pas encore loin non plus du massacre des missionnaires qui avait marqué la guerre des Boxers. Et parmi les chrétiens, certains avaient eu des parents qui avaient été massacrés par les Boxers, ils n'arrivaient pas à pardonner. Et le réveil, il y avait même certains qui tenaient des listes des personnes qu'ils allaient tuer pour venger leur mort, quoi. Et au cours d'une de ces... de ce réveil, certains sont venus déclarer qu'ils pardonnaient de tout cœur aux bourreaux de leurs parents, etc. Certains même se sont convertis, etc. Des listes de gens à abattre ont été brûlées, détruites, etc. Bon, il y a eu vraiment des choses tout à fait extraordinaires. À cette époque-là aussi, dès 1900, la province de Shanshen était sous la domination du pire des gouverneurs que l'on ait pu connaître, qui avait connu de terribles atrocités pendant la guerre des Boxers. Notamment, il avait tué des musulmans, 200 musulmans avaient été assassinés par lui. En 1908, Godefroy y est aussi arrivé prêcher l'évangile et le réveil a commencé. Et les chrétiens qui étaient 2000 sont passés à 8000 à la suite de ce réveil. On a même enregistré la conversion d'un champion de boxe. À Pékin, le réveil a touché l'église presbytérienne américaine, puis l'église méthodiste. Et puis, bientôt, les églises de Pékin étaient trop petites. Il y avait des gens qui étaient dehors. On a enregistré pendant cette période 3000 conversions. En 1909, à Nankin, des réunions ont été tenues sous la tente et ont attiré des foules énormes. On a noté, pendant cette campagne d'évangélisation de Nankin, 8000 convertis. Ce réveil a été évoqué aussi en 1911 à Édimbourg, la fameuse conférence d'Édimbourg. On était conscient de ce réveil qui se passait en Chine. C'est alors que un épisode tout à fait négatif a eu lieu, en quelque sorte. Un couple de missionnaires de la mission intérieure de la Chine, c'est-à-dire de la mission de Hudson Taylor, était âgé, s'appelait John et Betty Stan. C'est une histoire qui est très connue. Il y a des livres qui ont été écrits sur leur histoire. Vous connaissez peut-être, je ne sais pas si on a ça en bibliothèque. John et Betty Stan, qui à cette époque-là avaient respectivement 27 et 28 ans, ont été arrêtés par justement les autorités chinoises et condamnés à mort. Condamnés à mort pour avoir prêché l'évangile justement par ces gouverneurs sanguinaires. Ils avaient un jeune bébé. Et donc, ils sont morts avec un courage absolument admirable après avoir prié, recommandé leur bébé au Seigneur. Ils se sont agenouillés dans un bosquet et puis ils ont reçu une balle dans la nuque selon le procédé qui est encore employé en Chine aujourd'hui. Bon, c'est un couple de martyrs qui a fait beaucoup parler de lui, a été question dans toute l'Europe, etc. Bon, c'est très connu. Il y a aussi un certain missionnaire qui s'appelait Bécharat, qui était un baptiste de Manchester, qui a entendu l'appel missionnaire pour se rendre en Chine. Il a donc postulé pour la mission intérieure de la Chine. Ses parents étaient d'origine suisse, et à 22 ans, donc, il a posé sa candidature avec deux autres Suisses le 28 septembre 1922, et il est arrivé donc à Hong Kong. Là, il a travaillé avec le successeur de Hudson Taylor, qui s'appelait Host, et là, donc, il s'est marié avec une Suissesse qui s'appelait Rose Piaget, alors que le pays connaissait aussi une de ces grandes famines que connaît la Chine périodiquement jusqu'à nos jours. Voilà. Et donc, il a été un de ceux qui a pris la relève d'Hudson Taylor pour ce qui est de la mission intérieure de la Chine. Et entre 1930 et 1932, 200 nouveaux missionnaires sont arrivés en Chine pour le compte justement de la mission à l'intérieur de la Chine. Bon, on verra la suite la prochaine fois parce que donc notre temps est passé. Lui aussi donc a péri tragiquement, il a été enlevé par les communistes participant à la longue marche, et puis tous ces missionnaires ont été massacrés pour avoir été accusés d'être des espions, bien qu'on ait payé des rançons de 200 000 dollars, n'est-ce pas, de l'époque de 1934. Quoi. Est-ce que tu peux t'inquiéter ? Bien, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?